Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Après le repas, eh bien, on retourne sur les lieux du sanctuaire, mais pour visiter autre chose. Et là, nous voyons une grande file de gens, des adultes pour la plupart, qui attendent, des personnes qui attendent. Alors on s'informe, on dit, mais ils attendent quoi? Alors on nous explique ceci. Ils attendent pour leur serment. Ah! Un serment, c'est quoi? Un serment, c'est une promesse. Alors oui, les gens font leur serment, c'est une coutume du pays. Ils viennent à Notre-Dame de Guadeloupe pour faire leur serment. Il faut drôlement qu'ils soient prêts, parce qu'ils font leur serment devant un prêtre ou devant un diacre. Quel serment font-ils? Je me suis informé, mais de quoi s'agit-il? Alors on m'a dit, les gens font des serments, surtout pour vaincre l'alcool. Vaincre les drogues et la violence envers les femmes. Alors c'était touchant de voir ces personnes qui venaient et qui attendaient pour faire leur serment. Ça veut dire qu'ils se voient entre eux. Ces gens-là montrent leur visage et dévoilent leur faiblesse. On est loin du petit confessionnal où on est à quatre pattes cachées pour dire nos péchés. Je peux le comprendre. Et il faut le respecter. Mais là, c'est dehors, à ciel ouvert, devant tout le monde qui passe. Les gens sont là et ils attendent pour faire leur serment, parce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Ils ont été pris dans toutes sortes de choses. Les filets de la vie, les grands filets qui sont tombés sur eux. Vous savez, dans l'Antiquité, lorsqu'on voulait prendre une bête, et même des hommes, malheureusement, alors on installait des filets, on cachait des filets. Et à un moment donné, lorsque la proie arrivait à un endroit précis, le filet tombait dessus. Et là, on prenait la victime. Eh bien, plusieurs ont été pris dans ces grands filets, les filets de l'alcool, les filets de la drogue, de cette violence envers les femmes. Alors, ils viennent et font leur serment. Et c'est très strict. C'est très exigeant. Et ils devront venir rendre compte. Alors, une personne qui accepte de faire un serment, elle y a réfléchi. Elle y a réfléchi beaucoup. Alors, elle s'engage de manière stricte, de manière certaine, à pouvoir respecter le serment. Les pécheurs sont ensemble les témoins des uns et des autres. C'est peut-être une force pour eux de se voir et d'être ensemble et de se dire « Tu me ressembles ». Je te ressemble. On est ici à la porte. Nous allons entrer, j'entrerai, tu entreras, et nous allons ressortir avec une promesse. Et nous allons demander l'aide de Dieu, l'aide de la mère, de notre mère. Elle l'a dit à Juan Diego, qu'elle viendrait pour consoler nos pleurs, nos misères. Elle a dit qu'elle était notre mère compatissante. Alors elle nous comprend. Elle comprend notre misère. Elle comprend notre mal. Elle comprend notre souffrance. Nous nous confions à elle. Sois avec nous, mère compatissante. C'est comme cela. C'est ainsi que le cœur parle. Alors nous allons continuer notre chemin. Et nous voyons au loin des montagnes désertiques. Ce que je n'avais pas pu voir le matin, puisque la petite colline du Tepeyac, eh bien, c'est un chemin serpenté. Il y a toutes sortes de choses qu'on a mis. Il y a une chapelle par-dessus. Alors, on ne peut pas distinguer, je dirais, la montagne, la petite colline naturelle qu'a dû voir Juan Diego. Mais là, en allant un peu plus loin, sous un autre angle, eh bien, nous voyons ces montagnes. Et la montagne qu'il a dû voir, ce sont des montagnes désertiques. C'est pas des jardins, là. C'est pas des arbres extraordinaires. Alors on comprend le miracle des roses et des fleurs hein, qui étaient là, et de ces milliers d'oiseaux aussi qui chantaient avec ravissement. Non, ce sont des montagnes désertiques qui nous renvoient à celle que connut Juan Diego. Et là, il y a comme un monument assez important où c'est une procession de personnages qui vont présenter à Notre-Dame de Guadeloupe ce qu'ils sont. Alors c'est très beau, c'est un défilé des Aztèques devant la Vierge, alors qu'ils font une offrande. On voit des hommes, on voit des femmes, on voit des enfants. On voit des gens de toutes conditions, des gens âgés, on voit des personnes. Mais tout cela est une sculpture. Ce sont des personnages sculptés et qui convergent vers Notre-Dame de Guadeloupe. Il faut dire aussi qu'un événement est survenu à l'époque de Juan Diego, alors qu'il se rendait autour de l'oratoire. À un moment donné, il y a une petite source qui a jailli. Et elle coule encore aujourd'hui. Alors les gens y vont pour demander des grâces. Alors c'est encore le signe de la vie. La source est le signe de la vie qui continue. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va, mais la vie continue. Mais nous savons d'où elle vient. Elle vient de Dieu. La source est venue de Dieu. Et elle va vers Dieu. Elle nous conduit vers Dieu. Donc, défilé des Aztèques, c'est très beau, c'est très impressionnant. Ensuite, nous allons vraiment quitter le sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe et nous allons passer un moment avec la famille de Guillermo, le fameux professeur d'histoire. Je vous ai dit que lorsque nous sommes arrivés, et ça fait à peine 24 heures là, on est arrivé à Mexico, donc le père Christian nous a présenté Guillermo et tout de suite il nous a présenté son épouse. Alors, Eugène, Marie-Eugénia, les fils, alors là, on s'est enquis de savoir leur prénom. Alors, les fils, c'est Guillermo, donc il s'appelle comme le papa, et il a 13 ans, et le second, il s'appelle Juan, et il a 9 ans. Deux garçons éveillés, comme sont les parents. Le père hyper éveillé, très compétent dans ce qu'il sait, et dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il dit. Son épouse, c'est pareil. Je pense qu'elle est avocate. Elle est dans ce domaine, donc le domaine du droit, mais une femme de foi. Ce sont des croyants. Et ça se voit. Ce sont des gens dont la vie est essentiellement ancrée dans l'Esprit-Saint et dans l'amour de Dieu. C'est clair. C'est un engagement. Leur vie est un engagement. Et je vais vous raconter des petites choses qui vous feront comprendre qui sont ces personnes. Alors, nous, Nous sommes dans leur maison, ils nous accueillent avec un gâteau qui porte un nom particulier qu'ils vont nous offrir. C'est quelque chose de très traditionnel, et toujours la tequila, un petit peu de tequila. Alors là, nous allons assister à quelque chose de particulier. Les deux garçons sont très doués et doivent faire un exercice de déclamation sur le plan de leur école. Ils l'ont déjà fait et ils ont été retenus et choisis pour aller plus loin. Alors vous voyez, il y a comme des concours de déclamation. Moi, j'ai vécu cela quand j'étais jeune. Je l'ai vécu lorsque j'étais étudiant au séminaire de Saint-Georges. Ceux qui peuvent m'entendre et qui m'ont connu, vous savez, on avait des concours oratoires et j'ai souvent remporté le prix. Bon, c'était comme ça. Et des fois, ex aequo avec un autre jeune. Alors, on avait dans nos institutions de ces concours oratoires. Eh bien là, les deux enfants vont faire une sorte de pratique devant nous. Alors, je suis là, le père Christian est là, mon collègue prêtre est là, les parents sont là. Et bon, les enfants vont faire leur déclamation. Déclamation des enfants sur des thèmes de la famille. Alors, on voit bien l'influence de la famille dans l'éducation. Donc, le premier, c'est ce qu'il va faire dans sa déclamation. Et l'exemple qu'il prend, il dit que l'influence de la famille dans l'éducation est importante comme un GPS. Le GPS, il sait, il connaît la direction d'avance. Mais quand on est dans une famille et qu'on est un enfant, on a besoin des parents. Les parents sont comme un GPS, qui connaissent, en tout cas qui ont une intuition par leur expérience. Ils ont une intuition sur ce qui est bon pour l'enfant. Alors c'était très beau de voir ces jeunes, en tout cas le premier, qui nous a fait cette déclamation avec beaucoup de cœur, avec des gestes, par cœur là, par cœur devant nous. Ça dure à peu près 3-4 minutes, mais c'était très très beau. Et de temps en temps, il regardait sa mère. Alors moi j'en ai déduit que la mère était à la source des textes. Et je ne me suis pas trompé. Alors on continue, et le second est justement Guillermo, celui qui a 13 ans. Alors lui va faire sa déclamation sur le thème de la famille dans la vie de l'adolescent. La famille dans la vie d'un adolescent. Alors lui, il va prendre l'exemple en disant que la famille, ce n'est pas un frein. On dirait ici un break. Non, la famille n'est pas un frein dans l'évolution de la vie d'un adolescent, mais une trampoline. C'est l'expression qu'il va prendre, un tremplin. L'adolescent a besoin non seulement de ses parents, mais de sa famille, parce que c'est un tremplin qui va l'aider à avancer, qui va l'aider à comprendre parfois ce qu'il ne saisit pas sur le moment, qui va le faire grandir. Alors nous sommes dans la croissance. Le jeune adolescent est conscient et reconnaissant qu'il pourrait peut-être, comme plusieurs, et parfois peut-être qu'il peut le ressentir, que la famille, les parents sont comme un frein qui l'empêche de s'épanouir. Mais non, ce n'est pas un frein. C'est un tremplin, c'est une trampoline qui lui permet justement de grandir. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Petit Jean était captivé par les propos imagés de la Dame de la Montagne.
qui semblait intarissable.
Oui, maîtriser la rivière comme on maîtrise l'amour qui nous emporte. Ce n'est pas rester sur la rive, mais se lancer en sachant d'avance qu'il faudra être vigilant. La rivière peut nous perdre. Il trouvait étrange ce mélange d'audace et de prudence, et dit «
Alors, on est mené par l'amour ?»«
Si tu veux. Mais, dès qu'il t'a pris, ne tarde pas à le saisir à ton tour. C'est un véritable corps à corps. »«
On se bat avec lui ?»«
Non. On fait alliance avec l'amour. Sa force n'est pas mauvaise, ni son feu. » C'est contre toi-même que tu dois te battre pour ne pas le ramener dans tes propres filets. Petit-Jean était étonné, presque anxieux. Elle ajouta « L'amour peut tomber dans nos pièges. Ceux qui lui font croire qu'il nous doit tout et que le parfait bonheur se trouve quand il nous a tout donné. »
Découvrant avec stupeur les mille dangers qui se plaçaient sur ce chemin de l'amour, Petit-Jean se recroquevilla, toujours plus songeur, puis il dit «
Comment savoir si on aime vraiment ?»« Tu le sauras, le jour où tu seras prêt à tout donner, et encore plus et pour toujours, à celle qui frappera sans cesse à la porte de tes pensées. »
Comme il lui parut fascinant, ce chemin qu'il découvrait, et exigeant tout à la fois. L'amour lui avait semblé si simple jusque-là. Bien sûr, il savait que tout n'était pas toujours rose, mais les gens de son village ne lui avaient-ils pas donné l'exemple d'une vie sans histoire? L'amour ne devait pas être si difficile.
La dame de la montagne ajouta « Quelle montagne, parmi toutes celles que tu as sous les yeux ?» t'attire le plus, Petit-Jean.
L'impossible !
Il en va de même pour l'amour. Choisis le plus grand et le meilleur. Il se mit à douter qu'un jour il pût vraiment aimer. Il semblait qu'on avait jeté de l'eau sur le feu et décida de ne plus y penser.
Comme il regardait toujours vers le petit village, il lui revint à l'esprit la fameuse énigme de tous ces archers qui s'y trouvaient.
« Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. »«
L'amour ?» fit la dame de la montagne sourire en coin.
« Non, je ne m'explique pas comment il se fait que dans mon village se trouvent autant d'archers tout aussi habiles les uns que les autres. Tu ne trouves pas cela étrange ?»
Elle ne disait rien. Il reprit
« Tu comprends, toi ?»
« Depuis quand tires-tu à l'arc, Petit-Jean ?»«
Depuis que tu me l'as demandé. »«
En vue de quoi te l'ai-je demandé ?»«
Pour franchir un jour l'impossible. »
Petit-Jean devenait de plus en plus songeur. Une nouvelle pensée avait surgi en lui et soudain, stupéfait.
« Mais ce n'est pas possible !»
La dame de la montagne gardait toujours le silence. Puis il reprit
« Eux aussi ?»
Regardant en direction de l'impossible, elle dit « Je connais tous les archers de ton village. »«
Mais comment ?»
« Ils ont eu ton âge, ces hommes et ces femmes. »«
Tous, Petit-Jean, ils ont été comme toi enivrés par la montagne. »« Et alors ?»
Certains ont pris comme toi l'escalier. Ayant monté une, deux, trois marches. Mais comme il devenait difficile de poursuivre ce chemin qui mène au pied de l'impossible, ils ont reculé, incapables.
Tout s'illuminait dans l'esprit de Petit-Jean. Elle continua. Alors, ils retournent à leur village avec rancœur, déception.
Et ils continuent de faire peser sur la tête de leurs enfants le poids de leurs rêves déchus. Voilà pourquoi tu as trouvé des archers si nombreux chez toi. Personne ne sait leur secret. personne ne se doute que son voisin garde le même au plus profond de son être. L'orgueil les garde muets. Petit Jean se mit à voir tous ces visages défiler dans sa mémoire. Le charpentier rité, Joseph le soldat et son père en colère. Il se rappela les mots qu'il lui avait dit. « Je te ressemble, papa. » La dame de la montagne regardait toujours l'impossible montagne, envahie par tant de souvenirs. « C'est comme pour l'amour, petit Jean. On brûle de désir, mais en chemin. On démissionne, on arrête sa montée, puis on rentre chez soi les dents serrées, les poings fermés et le cœur triste de n'avoir pas réussi. » Puis, le regardant droit dans les yeux, elle ajouta « Tu as réveillé le rêve de tous ces gens, mon garçon. » Petit Jean jonglait avec toutes ses pensées en lui. Maintenant, il saisissait tant de choses. La reine aussi s'était tournée vers l'impossible. Elle continuait de hanter ses pensées. Il eût voulu qu'elle soit là près de lui pour l'aider, la soutenir dans ses marches d'escalier et lui éviter les faux pas. Toujours assis sur le seuil de la porte, il se tourna vers la dame de la montagne et lui dit « Je crois que je l'aime. » Elle s'approcha de lui et demanda « Tu aimes les histoires, petit Jean ?»«
Les histoires ?»
Un jour, des élèves se mirent à dire à leur maître d'école qu'ils l'aimaient. Celui-ci réagit peu à leur déclaration. Ce qui irrita les élèves, qui lui demandèrent pourquoi il montrait si peu d'enthousiasme en regard de l'amour qu'il lui témoignait en parole. Le maître leur demanda « Savez-vous ce qui me fait souffrir ?» Les élèves étonnés, se regardant les uns les autres, répondirent qu'ils ne le savaient pas. Alors le maître leur dit « Comment pouvez-vous me dire que vous m'aimez, si vous ne savez pas ce qui me fait souffrir ?» Petit Jean perdit le souffle. À nouveau, tout s'était embrouillé dans le cœur de Petit Jean. Avec cette histoire, comment pouvait-il le penser aimer, celle qu'il connaissait à peine ? Le voyant qui réfléchissait toujours, la dame de la montagne lui demanda « Qu'as-tu fait d'abord pour fabriquer ton arc ?»
« J'ai trouvé le bois qu'il fallait, puis j'ai taillé. »«
Pour l'amour, c'est pareil. »«
Mais quand peut-on savoir qu'on a trouvé ?»«
Quand on a la folie et l'audace d'y croire et de commencer à tailler l'arc, mon garçon. » Ces paroles l'apaisèrent et le ramenèrent à l'essentiel. Un feu s'était allumé en lui, doucement. À la rivière, il trouvait le calme, la vraie paix. L'eau coulait lentement et s'étendait avec son long miroir de tranquillité. « Il lui fallait monter encore deux autres marches à l'escalier, pensait-il. Quelle serait-elle? Allait-elle dépasser ses capacités et le contraindre lui aussi à imiter tous ces archers qui avaient dû rebrousser chemin? L'irrésistible envie de l'impossible s'empara à nouveau de tout son être et il remonta à la petite chaumière près de laquelle la dame de la montagne se tenait, avec les poules qui caquetaient toujours. Petit Jean cria.
« Tu les aimes, les poules ?»«
Oui, je les aime. »«
Alors, tu sais ce qui les fait souffrir ?»
La dame sourit.
« Les poules ne souffrent pas, petit Jean. »
La réponse lui plut. Et il se mit à rire et reprit.
« Mais toi, tu es aimé ?»«
Moi ?»«
Oui, je crois. » Alors, on sait ce qui te fait souffrir ?
Elle s'arrêta brusquement et le regarda. Oui, je crois qu'on m'aime, car il y a longtemps que je ne serai plus sur cette montagne pointue, si tous les archers de ton village ne m'aimaient pas.
Ils savent ce qui te fait souffrir ?
Ma souffrance, c'est la leur, petit Jean. Ils savent mon respect. Et ma compassion devant leur échec. Moi aussi, je les aime. Il resta longtemps pensif près de l'enclos des poules qui picoraient sans se soucier de rien. Puis il leur dit « Les poules ne s'ouvrent pas. » Petit Jean se leva tôt ce matin-là. Un pressentiment. La sixième marche était pour ce jour-là. Elle ne serait pas facile. Dehors, le temps avait subitement changé. Une brume épaisse se cramponnait au flanc des montagnes où se perdait le soleil. Il mangeait des galettes tandis qu'elle buvait son thé. Elle prit la parole. « Petit Jean. »
« Oui ?»«
Ferme tes yeux. » Il les ferma. Derrière la chaumière, à gauche, il y a un sentier. Prends-le. À environ 15 minutes de marche, tu arriveras en face d'un arbre immense, un pin. Là, tourne vers la droite et suis le sentier qui te mènera à une chute d'eau qui coule de la montagne. Derrière la chute se cache une grotte. Tu y vivras. Il ouvrit les yeux, presque effrayé, et demanda « Longtemps ?»« Tu ne sortiras de la grotte que lorsque le soleil sera couché. Tu trouveras alors ta nourriture pour chaque jour. Lorsque tu verras qu'elle manque, tu reviendras.
Mais il fera nuit ?»«
Tu reviendras. Va. » Petit Jean se leva avec lourdeur et demanda
« J'apporte quelque chose ?»«
Oui, le souvenir de l'impossible. »